Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter le forum du studio Kalangou au micro Mohamed Maman. Vous recevez ce forum grâce à un réseau de 52 radios partenaires sur l'ensemble des 8 régions du Niger. À Maradi, ce forum est diffusé sur les ondes de la radio Garkwa 107 MHz et la radio Saraounia 102 MHz. L'émission d'aujourd'hui porte sur la situation de la maladie du choléra à Maradi. Quelles mesures de riposte ? Après celle de l'année 2018, le Niger a de nouveau connu une nouvelle épidémie de choléra en 2021 avec à la clé une flambée des cas. Le premier cas a d'ailleurs été confirmé le 13 mars 2021 et annoncé officiellement par les autorités le 9 août 2021. Selon les chiffres de Médecins Sans Frontières, on compte plus de 4000 cas et plus de 144 décès. À l'exception de la région d'Agadez, 7 des 8 régions que compte le Niger ont été touchées. La région de Maradi était l'épicentre de l'épidémie avec 56% des cas. Et dans ce forum justement, nous ferons un gros plan sur les cas enregistrés à Maradi. Nous verrons également la situation actuelle de la maladie ici, ses causes et conséquences, les mesures mises en place pour prévenir une éventuelle épidémie. Pour ce faire, nous recevons dans ce studio Sayeb Oumalamlaouli, responsable du service hygiène et communication à la Direction régionale de la santé publique, et Madame Yahya Hajia Mariama, responsable hygiène et assainissement de la ville de Maradi. Débutons cette émission avec vous, Sayeb Oumalamlaouli. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'hygiène et assainissement public à la Direction régionale de la santé publique. En effet, la région de Maradi n'a pas échappé à une épidémie de choléra l'année dernière. Comment le premier cas du choléra est survenu dans cette région, M. Sayeb?
Merci, Mohamed. Je profiterai de cette opportunité que vous nous offrez pour donner un coup de chapeau au studio Kalangou pour tout l'appui, pour toutes les contributions que vous êtes en train de nous apporter, en tout cas dans le domaine de la santé. C'est vraiment un travail patriotique que vous êtes en train de faire. Pour revenir au sujet, donc le premier cas du choléra enregistré en 2021 est survenu de la façon suivante. Il s'agit d'un cas qui a été notifié par un de nos CSI frontaliers et du district de Madarumfa, donc frontalier du Nigeria, du district de Madarumfa. Et le premier cas, effectivement, était un cas importé, j'allais dire. Et ce premier cas, nous, chez nous, ça a été notifié en avril 2021. C'était le début et donc de l'épidémie. Et il y avait eu une pause. Maintenant, avec l'arrivée de la saison hivernale 2021, la situation s'est amplifiée vraiment et a pris une proportion très, très inquiétante, puisque nous avons eu à enregistrer beaucoup de cas, beaucoup de décès.
Et justement, M. Sayeb Oumalamlaouli, alors quel était le bilan?
Le bilan de la précédente épidémie, donc j'allais dire de l'épidémie de 2021, est le suivant. Sur les districts qui ont rapporté des cas, ici c'était 5 à 6 districts. Il y avait le district de Madarumfa, qui était donc le foyer. Il y a le district de Maradiville. Il y a le district de Guidarumji. Et le district de Tessawa. Et un tout petit peu Agué. Mais quand même, les trois premiers étaient vraiment les plus touchés et les plus concernés, comme d'habitude. Et en tout, nous avons notifié 3038 cas avec 49 décès, malheureusement.
Malheureusement, effectivement. Après avoir enregistré le premier cas de choléra, quelle a été la mesure immédiate que vous avez eu à prendre?
Vous savez, et pour ce qui est de la région de Maradi, les autorités sanitaires ont pris la mesure ou vraiment la gravité de la situation sanitaire en ce qui concerne les maladies à potentiel épidémique, dont le choléra. J'allais dire des dispositions étaient prises en amont au cas où et la situation se présente pour y faire face avant vraiment que n'interviennent les autres acteurs, les autres partenaires. Tout à fait. Sinon, dès la notification du premier cas, toutes les mesures qui concernent la gestion des cas de choléra ont été prises, c'est-à-dire de la prise en charge au prélèvement pour la confirmation du vibrion cholérique au laboratoire, en passant par la prévention, le contrôle des infections, la communication et la surveillance. Et tout ça là, toutes ces composantes ont concouru vraiment à y faire face malgré toutes ces dispositions. Et vous avez vu, avec le temps, avec l'intensification des pluies, les choses ont évolué. Et de l'autre côté, et j'allais dire côté communauté, il n'y a pas l'accompagnement nécessaire lié vraiment compte tenu d'un certain nombre de paramètres que peut-être nous aurons l'occasion d'évoquer à ce niveau.
Vous avez parlé tout à l'heure des localités, en tout cas les premières localités touchées. La première, c'est Madame Fatoune Mambissé.
Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qui a favorisé que ces trois localités soient les plus touchées?
Et l'explication est toute simple. Et ces trois secteurs ou ces trois zones, vous allez le constater, partagent tous une même ressource naturelle qu'est le Goulbi. Et en dehors de ça, ils sont tous frontaliers du Nigeria. En dehors de ça, il y a d'autres paramètres, notamment en rapport avec l'environnement. Certaines règles de préservation de la santé de l'environnement ne sont pas du tout respectées par certaines de nos communautés. Deux fois, c'est par méconnaissance. Deux fois, par négligence. Vraiment, il y a deux fois. Voilà.
Comment les populations, vous avez dit qu'il y a eu, dès au départ, hein, dès le premier cas, il y a eu des mesures qui ont été prises. Mm-hmm. Alors, comment les populations ont perçu ces mesures?
Les mesures prises, puisque dans un premier temps, vous savez, on a constaté qu'il y a une certaine réticence, surtout pour ce qui concerne Maradiville. Il y a une certaine réticence, une certaine incompréhension, j'allais dire, devant les cas où la population ou la communauté ne se presse pas pour référer ou déclarer le cas. C'est ce qui a fait d'ailleurs que Maradiville a enregistré beaucoup plus de nombre de cas par rapport aux deux autres districts. Pourtant, le district le plus touché, c'était Madarufa. Mais on a enregistré beaucoup plus de cas. Et cela est lié au fait que les cas ne sont pas référés par la communauté très tôt au site de prise en charge. Ils ne sont pas du tout déclarés. Puisque pour certains, ils font de ça une maladie honteuse. Parce qu'on dit que c'est une maladie qui est en rapport avec le manque d'hygiène, avec, si on va parler le terme, terre à terre, en rapport avec les salités. Donc, la population, certaines de nos compatriotes expriment une certaine honte si elle dit un tel a piqué, diarrhée, vomissement, donc choléra en un mot. Donc, ils ont tendance d'abord à faire l'automédication ou aller chez les tradis praticiens avec leur maganzahi façon. Maintenant, c'est quand ça ne va pas, maintenant, on amène la personne. Maintenant, c'est après, avec votre avis, c'est-à-dire l'appui des médias, avec l'implication des autorités administratives coutumières, avec l'implication de certains leaders, effectivement, que les gens ont commencé à comprendre c'est une maladie comme toute autre, il faut la déclarer et il y a des mesures qu'il faut prendre pour s'en prévenir. Donc, avec l'évolution, vraiment, la population est revenue à la raison et elle a compris exactement et comment cette maladie se transmet et comment se protéger.
Est-ce qu'une propre réaction a été apportée pour juguler la crise?
Oui, une prompte réaction a été. C'est pour cela qu'on a dit riposte à l'épidémie. Ça veut dire que dès qu'il y a déclaration, on n'attend pas et on agit sur tous les fronts. on ne se limite pas uniquement à la prise en charge. Non, non. On va vers les actions de protection de l'environnement. On va vers les actions qui aident la population à respecter les mesures d'hygiène, surtout d'hygiène individuelle, d'hygiène alimentaire, d'hygiène des l'eau, d'hygiène environnementale.
Alors, voilà. Il y a eu, comme nous le savons tous, des vaccinations contre le choléra.
Mm-hmm.
Parlez-nous de cette campagne de vaccination et comment elle s'est passée.
Et il y a eu deux passages de vaccination contre le choléra. Effectivement, c'était une campagne qui était destinée à être faite pendant 3-4 jours. Mais au premier passage, effectivement, on a constaté que le vaccin là n'est pas accepté parce que il y a des rumeurs qui tournaient autour. On faisait allusion au vaccin Covid, on faisait allusion. Donc vous savez, et la communauté, elle a sa façon de voir. Et maintenant, ce qui complique les choses, c'est les infox. Les fausses informations, les rumeurs, etc. Et tout ça là, parce que peut-être en amont, cette communauté-là n'a pas eu les informations nécessaires et à temps. C'est en ce moment-là que les rumeurs arrivent à glisser. Mais ça n'a pas empêché, effectivement, à cette campagne vraiment d'atteindre son but. Le premier passage, effectivement, au lieu de 4 tours, on est allé à 2 semaines. Il a fallu mobiliser toutes les personnes vraiment influentes et surtout c'est au niveau de la ville de Maradi qu'on a constaté ça. Donc il a fallu qu'on mobilise et c'est du porte à porte qu'on faisait pour pouvoir atteindre. On n'a pas pu atteindre même les 90-95%. On était à 86, je crois. J'ai pas exactement, mais c'est au-delà de 80. Mais ça n'a pas atteint les 90. Mais au deuxième passage, effectivement, avec la grande mobilisation, on a tenu vraiment des rencontres restreintes de plaidoyer auprès des leaders d'opinion, auprès de certains responsables, ouais, certains responsables des groupes sociaux. Et donc, avec leur appui, avec leur implication, vraiment, on a pu, au deuxième passage, à atteindre la cible ou l'objectif fixé par cette campagne. Donc, en un mot, les deux passages de vaccination contre le choléra ont été un succès, mais avec beaucoup de difficultés.
Merci, Saïd Malanaouli, pour toutes ces précisions. Je vais me tourner vers Mme Yahya Hajia Mariama. Vous êtes la responsable hygiène et assainissement de la ville de Maradi. Saïd vous vient de donner les statistiques. Il se trouve que la ville de Maradi, la ville où on suppose que tout le monde a quand même cette capacité de comprendre les choses, c'est à Maradi et que la situation est encore beaucoup plus compliquée. Alors, avant de parler de cette complication, quelle contribution la ville de Maradi a apporté dans la gestion, évidemment, de l'épidémie de 2021, madame?
Bonsoir, Mohamed. Merci. Tout d'abord, nous vous remercions de nous donner cette opportunité de nous exprimer par rapport à l'hygiène et assainissement. Donc, en 2021, les actions que nous avons eu à réaliser dans la ville de Maradi. Donc, nous avons appuyé le district sanitaire à travers un site Grand Choléra et nous avons accompagné le district à travers l'appui financier, appui alimentaire et logistique. Nous avons aussi mené une sensibilisation à travers un plaidoyer à l'égard de la communauté. Donc, nous avons aussi mené une campagne de pulvérisation des insecticides dans la ville de Maradi pour lutter contre le paludisme. Et nous avons aussi mené des campagnes de salubrité dans la ville de Maradi. Et nous avons aussi fait des curages des caniveaux pour éliminer les gîtres larvaires. Nous avons aussi évacué des inondistes de la ville de Maradi, notamment Erhama, aéroport, etc. Donc, nous avons aussi fait des balayages nocturnes dans les grandes artères de la ville de Maradi pour rendre la ville propre. Voilà ce que nous avons eu à faire en 2021.
Et ces actions ont apporté leurs fruits?
Oui, quand même, globalement, vraiment, on a eu un gain de cause, vraiment.
Alors, parlez-nous de la question sanitaire, de la question d'assainissement, parce que vous êtes la responsable. Mm-hmm. Actuellement, comment se présente cette situation d'assainissement dans la ville de Maradi?
Vraiment, l'assainissement de la ville de Maradi, c'est un calvaire, vraiment, si on peut le dire vraiment. Vu le comportement de notre population, par exemple, prenons l'exemple de nos populations qui versent des ordures dans les caniveaux. Maintenant, récemment, on a fait des curages des caniveaux. On trouve des matelas, des moquettes dans les caniveaux. Et c'est ces caniveaux-là qui sont censés à évacuer
les
eaux usées. Tu vois, la population, certaines de notre population, versent les eaux usées dans les pavés, les goudrons. Donc vraiment, la population doit nous aider pour respecter les règles d'hygiène et assainissement.
Mais qu'est-ce qui fait que ces populations, jusqu'à preuve du contraire, n'arrivent pas à comprendre l'importance de l'hygiène?
Vraiment, nous, à notre niveau, on fait de notre mieux puisqu'on fait des sensibilisations. Et même le choléra, le pali, c'est la source de... tout ça, là, c'est la source de... qu'on ne respecte pas les règles d'hygiène et assainissement. Si les règles d'hygiène et assainissement sont très bien respectées, donc on peut évacuer et le pali et le choléra.
Merci beaucoup, madame. Savez-vous, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, pour un peu appuyer ce que ma collègue de la ville vient de dire. Et effectivement, la situation d'hygiène publique au niveau de la ville de Maradi, vraiment, comme elle l'a dit, elle laisse à désirer. Et en dehors de tous ces comportements qui ne sont pas favorables à garantir une meilleure santé, vous allez constater, même les nouveaux caniveaux qui sont en construction, qui ne sont pas encore finalisés, vous allez voir vers le quartier Alonso où des gens ont commencé à faire leur branchement de leurs matières usées à ces canalisations, à ces caniveaux-là. Or, c'est quelque chose qui est strictement interdit parce que ça ne cadre pas. Ces caniveaux ne sont pas faits pour évacuer vos eaux vannes. Non, c'est les caniveaux sont faits pour l'évacuation des eaux pluviales, etc. Mais pas les eaux vannes.
Vous avez apporté des actions, vous avez sensibilisé la population en 2021, vous avez pris en charge les malades du choléra en 2021. Mmh. Aujourd'hui, comment se présente la situation actuelle du choléra?
La situation actuelle avant d'en venir, donc il faut peut-être dire à nos auditeurs que d'après les scientifiques, donc tout laisse à croire que nous avons un cycle d'après chaque 2 ans de choléra dans notre région. Et cette fois-ci, ce qui nous surprend, nous n'avons pas bouclé les 2 ans. À moins de 2 ans, encore présentement, à l'heure où je vous parle, nous sommes en épidémie de choléra. 2022, à l'heure où je vous parle présentement, nous sommes en épidémie de choléra dans la région de Maradi. Et pour l'instant, nous avons un seul district qui est touché, c'est le district de Madarumfa, comme d'habitude. Et maintenant, le district de Madarumfa, chose curieuse, c'est au niveau de la ville de Madarumfa. Ce n'est pas au niveau d'un village frontalier ou des CS frontaliers ou bien quelque chose. C'est au niveau de la ville même de Madarumfa, ou dans un quartier où le premier cas vraiment a été déclaré. Et ça, d'après vraiment les informations, les premières informations, puisqu'on n'a pas encore finalisé et l'investigation par rapport au cas index, on n'a pas tracé son itinéraire pour pouvoir donc faire la liste des contacts et autres. Et tout laisse à croire que là aussi, c'est suite à un voyage, suite à un mariage qui a rassemblé les jeunes du Nigeria, Jibia probablement, jusqu'à Kano, qui sont venus pour un mariage. Et c'est partant de là, maintenant, nous avons eu le premier cas au niveau de Madarumfa. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré, où nos services ont notifié 15 cas. Et fort heureusement, il n'y a aucun décès pour l'instant. Toutes les mesures, dès la détection du premier cas, ont été prises, puisque vraiment, on acquiert l'expérience avec, où on a acquis l'expérience avec la gestion des cas, des différents épisodes de choléra, des différents épisodes antérieurs. Et dès qu'il y a eu la notification des cas, Nous avons vraiment des agents de santé qui sont aguerris dans ce domaine. En tout cas, pour notre cas, pour la région de Mara, surtout pour le département de Mara Mfa, aujourd'hui, un agent de case de santé peut te prendre correctement en charge les cas de choléra. Donc, le district a mobilisé les ressources et nous, à partir de la région, effectivement, on leur avait appuyé avec une équipe et avec tous les intrants et autres matériels par rapport aux différents axes pour que la prise en charge et la circonscription de l'épidémie vraiment soient effectives. Par rapport à la prise en charge, nous avons suffisamment de solité et les autres consommables qui l'accompagnent. Nous avons la surveillance. La surveillance, elle est de mise. Même avant le déclenchement de l'épidémie, la surveillance, elle est toujours permanente. Que ce soit au niveau de nos structures sanitaires, comme milieu communautaire. La surveillance, elle est de mise. Et maintenant, il y a le laboratoire qui est venu. Nous avons eu l'appui du nouveau central. Il y a une équipe spéciale dédiée à cela, à faire face aux urgences sanitaires, qui est venue pour nous appuyer. Et dans l'équipe, il y a toutes les composantes et le laboratoire, effectivement, ils nous ont confirmé que c'est le vibrion colorique. Bien avant, nous avons fait des tests rapides, effectivement, qui nous ont donné l'indication que c'est le vibrion colorique. Mais la confirmation est faite aussi aujourd'hui par le laboratoire que vraiment qu'il s'agit du vibrion colorique, donc qu'il s'agit de l'épidémie de choléra.
Il n'y a pas de doute
là-dessus, bien que vraiment ça n'a pas été solennellement et déclaré, mais c'est pas des choses vraiment à cacher puisque c'est des choses qui demandent vraiment une prompte réaction et une implication de tout le monde, pas uniquement les professionnels de santé.
Donc, quelle est aujourd'hui la capacité des centres de santé intégrés à faire face à cette maladie?
Non, le centre de santé intégré est une structure parfaitement capable. Les CSI, vous parlez, non? Ça, c'est une petite affaire. Même au niveau des cases de santé, je vous dis. Nos agents qui sont là, vraiment, ils ont le nécessaire. Ils ont vraiment l'essentiel pour prendre en charge les cas de choléra. Parce que la déclaration scientifique d'un cas, elle est là affichée au niveau de tous les centres. Et que tous les produits de prise en charge, c'est généralement les solités, généralement les rangers. Parce que le choléra, comme vous le savez, c'est la déshydratation. Donc, il faut réhydrater abondamment. Si vraiment c'est venu à temps là, très vite, ça passe. Et maintenant, l'autre aspect, c'est par rapport à la prévention et au contrôle des infections. Ça, c'est les méthodes utilisées pour détruire tous les potentiels germes possibles que soient excrétés par les malades ou les porteurs des germes. Donc, au niveau du site de prise en charge, au niveau du domicile du cas et tout au long des trajets, ou bien ça concerne aussi le moyen qui a servi à transporter le malade ou à référer le malade jusqu'au site de prise en charge. Et tout ça là, l'État a tout mis. Nous avons personnellement amené tous les moyens nécessaires en matière de prévention et de contrôle. Si vous voulez, terme vulgaire, en matière d'hygiène en milieu de soins. C'est ça donc la prévention.
Nous savons que l'année dernière, vous avez mis en contribution les AD d'État parce que deux fois, c'est dans ces AD d'État qu'on refait les malades. Est-ce que cette sensibilisation à leur niveau a été faite?
Pour l'instant, on n'a pas finalisé notre plan de riposte par rapport à la communication. Et ça sera fait d'ici là.
Alors, quelles sont les mesures à long terme à prendre pour mettre fin définitivement à cette maladie?
Les mesures à long terme, c'est le changement comportemental et social. Ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on regarde, en matière d'hygiène publique, en matière de prévention des maladies transmissibles, que fait la population? Quel est le comportement adopté par notre population face à cette situation-là? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les comportements observés par nos communautés sont de nature à favoriser l'élimination, voire même l'éradication de la maladie, ou bien le contraire? C'est là où se trouve la question. Malgré tout, toutes les stratégies que nous avons déployées avec le concours des partenaires techniques et financiers et avec l'appui surtout des médias, j'insiste dessus, les gens n'arrivent pas ou bien nous n'arrivons pas vraiment à avoir les comportements idéaux, les comportements souhaités. Et là, il faut aller en profondeur. Peut-être va falloir changer de stratégie, aller de nouveau vers la population là, la responsabiliser au sens large du terme. On dit, on a impliqué, on a... Mais quand on voit de la mise en œuvre, en réalité, cette communauté-là est mise à l'écart. On le dit seulement sur papier et on le dit verbalement. Mais concrètement, quand on voit l'implication, vraiment, elle est superficielle. Or, c'est elle qui connaît le problème, c'est elle qui est concernée, c'est cette communauté-là que le problème touche. Si c'est des conséquences, c'est elle qui les vit. Par conséquent, pour trouver des solutions à cette situation-là, il faut nécessairement, ça c'est une obligation, il faut nécessairement retourner vers cette communauté-là, s'asseoir, lui donner le champ libre de décider des mesures à prendre, des décisions qu'ils doivent apprendre pour pouvoir contrecarrer. Nous, on sait, scientifiquement, on sait que quand on se lave les mains, on peut se débarrasser de beaucoup de germes. Mais si aujourd'hui, peut-être la population, avec l'avènement du COVID, de la COVID-19, on l'a vu, les gens étaient un peu réticents pour se laver les mains. Pourtant, ils savent que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est la réticence là. On n'est pas allé vers elle, vers la population, demander, mais pourquoi
vous
ne voulez pas? Elles ont leurs raisons. Ouais. Et c'est ces raisons-là qu'on n'a pas pu découvrir. Et c'est maintenant la prochaine étape. Obligatoirement, si on veut
faire un diagnostic
communautaire, absolument, il nous faut ça, il faut nécessairement qu'on retourne vers cette communauté là s'asseoir. Maintenant, c'est à elle de définir les axes à suivre pour solutionner nos problèmes. Sans ça, si vous allez faire venir tous les partenaires de ce monde là vous financer tout, ça serait un échec.
Merci Zaïb Madanoli pour toutes ces précisions. Madame, je vais tourner vers vous. Madame Yahya Jia Mariama, responsable hygiène et assainissement de la ville de Maradi. Alors, on vient de dire que même pour cette année 2022, il y a en tout cas le choléra à Maradi. C'est vrai, c'est pas encore à Maradi-ville. Nous savons que si c'est Maradi-ville, c'est encore beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour y faire face?
Bon, par rapport à ça, donc en 2022, on a fait l'institutionnalisation de la journée du dimanche de chaque fin du mois comme journée de salubrité. Donc, nous avons aussi mené des travaux de voirie, comme le pavage des rues de Baglam, de Sabangari, la construction de rues latéritiques des arrières de tout ça là pour avoir l'accès aux centres de santé et aux écoles. Et nous avons aussi mené une campagne de sensibilisation sur l'hygiène et assainissement. Et nous avons aussi fait des curages des caniveaux, des curages des caniveaux pour évacuer toujours ces gîtes larvaires. Et nous avons aussi éliminé les inondistes de Ashura et à côté de l'adresse. Nous avons aussi fait des sensibilisations à travers un plaidoyer à l'égard de la communauté sur le COVID, sur la CPS, sur le choléra aussi. Donc, nous pouvons dire globalement, en 2021, que nos activités sont bien en cours et nous s'en sommes continués toujours dans ce sens-là, comme en 2021.
Nous savons que ce n'est pas encore arrivé à Maradi,
oui.
Mais est-ce que déjà, dans vos prévisions, vous êtes en train de vous dire que même si ça va venir à Maradi, voilà peut-être le quartier qui va être le premier touché?
Bon. Et dans nos prévisions, vraiment, le quartier qu'on craint, c'est le quartier Baglam-Soura. Donc déjà, on a ciblé un site pour faire le camp choléra. Et actuellement, présentement, donc on est là-dessus.
Tsaïb, on va revenir toujours vers vous pour parler de la prise en charge. Dans ces genres de situations, comment se fait la prise en charge des malades de choléra?
La prise en charge... D'abord, je vais assurer tout le monde, elle est gratuite. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est le travail des cliniciens, c'est vrai. Mais la prise en charge du choléra, c'est vraiment la réhydratation. C'est la réhydratation. Peut-être, c'est qu'il faut pour stopper les vomissements. Et ajouter quelque chose pour, quelques antibiotiques pour peut-être prévenir une co-infection quelconque. Sinon, c'est la réhydratation. la réhydratation intense. Sinon, tout cas de choléra référé à temps, vraiment, et probablement, sera guéri.
Et quelles sont les conséquences sanitaires du choléra?
Les conséquences sanitaires sont dramatiques. D'abord, dès qu'on parle de choléra, il y a la psychose. Tout le monde a peur. En dehors de ça, on va parler sur l'aspect économique avant d'aller à l'élément de fin. Ça peut contribuer à la baisse de revenus d'une famille, d'une communauté ou d'un pays. Puisque tout cas doit être pris en charge, même si vous, le cas, vous ne payez rien, quelque part il y a quelqu'un qui paye. Et même en dehors de ça, vous êtes immobilisé, et vous et vos proches. Si la personne va faire 2-3 jours au niveau d'un site de prise en charge de choléra, donc ça veut dire que oui, toute cette période, et lui et ses proches-là, ils n'effectueront pas vraiment quelque chose de productif dans le sens économique. Et c'est dans ce qu'ils possèdent, peut-être qu'ils vont puiser pour subvenir à certains des besoins qui ne sont pas peut-être pris en charge par le domaine sanitaire. Après ça, le choléra peut tout simplement tuer. On l'a vu avec l'épidémie de 2022. Maradi a enregistré... 2021, autant pour moi. Donc, Maradi a enregistré 49 décès.
Alors, madame, quel est l'apport de la population dans la prévention de la maladie? Qu'est-ce que la population peut faire pour prévenir?
Et à notre niveau, on sensibilise la population pour le changement. Pour ce qu'on a eu à vivre en 2021, qu'on n'aura pas cette situation-là, puisqu'il y a eu beaucoup de dégâts en 2021. Donc, surtout, c'est d'évacuer les déchets, les eaux usées, surtout de respecter les mesures d'hygiène. C'est surtout de respecter les mesures d'hygiène. Puisque dès qu'on parle du choléra, c'est une maladie terre à terre des salles. Donc, si on respecte les mesures d'hygiène, vraiment, cette maladie sera éradiquée, vraiment.
Donc, l'apport que la population doit apporter, c'est d'être toujours propre.
Propre. La propriété individuelle, environnementale, alimentaire, si on respecte le lavage des mains avant et après, si on respecte toutes ces mesures d'hygiène, vraiment, on va éradiquer cette maladie.
Oui, ça y est.
Donc, la contribution que nous attendons de notre communauté, nous sommes ici aussi de cette communauté, les contributions donc sont les suivantes. Elle l'a dit, c'est le respect des règles d'hygiène élémentaire. Et les règles d'hygiène élémentaire en rapport avec d'abord l'eau, puisque nous avons vu que c'est une maladie d'origine hydrique. Donc toute consommation d'eau souillée par les excréta est sujette au choléra. Le respect des règles d'hygiène, comme je le dis, donc l'hygiène alimentaire, là, c'est là la grande question. Par exemple, avec cette période, nous avons beaucoup de crudités qui circulent. Et que ces crudités-là, généralement, ne sont pas systématiquement soignées ou traitées avant d'être mangées. Donc, c'est à ce niveau que la population doit prendre conscience, s'impliquer et s'approprier de ces mesures-là. Avant toute consommation d'un aliment à manger cru, quel qu'il soit, si c'est cru qu'on va le manger, alors il est fortement recommandé de bien le traiter, de le désinfecter, même si c'est au savon. Si vous n'avez pas les autres produits désinfectants tels que le chlore, vous pouvez utiliser le savon, ça peut marcher. En dehors de ça, elle a parlé du lavage des mains. Le lavage des mains est très, très, très capital dans la prévention des maladies telles que le choléra. Et à des moments critiques où il est fortement recommandé ce lavage des mains, on dit au sortir des toilettes, avant de toucher à un aliment pour quelqu'un qui prépare, avant de manger, etc., etc. Ces moments critiques sont là. C'est ce qu'on demande à notre population. Et c'est des choses qui ne demandent pas un fonds, qui ne demandent pas un grand effort. En dehors de ça, il y a l'hygiène environnementale. L'hygiène environnementale, c'est en rapport avec l'évacuation, surtout des excrétats. Parce que les excrétats sont la cause principale de la pollution de notre eau, de nos aliments et même de nos mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit le milieu dans lequel vous vivez, donc vous avez obligation de déféquer dans une latrine. Donc, il n'est pas est souhaitable aujourd'hui, en 2022, qu'une personne, qu'elle soit de la ville ou du village, aujourd'hui qu'elle défèque à l'air libre. Vraiment, c'est dépassé. Et ça ne fait pas honneur et à notre ville, et à notre région, et à notre pays.
Alors à présent, nous allons nous projeter dans le présent, avec l'abondance des pluies qui laisse craindre la survenance de ces cas. On a déjà parlé de 15 cas pour cette année 2022. Avec la continuité des pluies, est-ce que on peut dire que ces 15 cas risquent d'être franchis rapidement?
Avec peut-être l'intensification des pluies, on l'a vu avec l'épidémie de 2021, dès qu'il y a une grande pluie, alors il y a une explosion des cas. Mais contrairement à 2021, pour 2022, n'oubliez pas qu'une campagne de vaccination a été menée. Et ça compte beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un certain groupe ou un certain nombre d'individus qui sont vaccinés, qui sont protégés contre cette maladie. Donc nous, à notre entendement, même s'il y a grande pluie, nous pensons que les cas, même si vraiment ça évolue, ça n'atteindra pas l'année 2021. Petit à petit, on constate que les gens commencent à changer. Et en dehors de ça, cette fois-ci, il y a un appui important en produits désinfectants d'eau, de boissons, qui est l'Aquatap, que nous avons déjà acheminé sur place à Madarumfa pour que ça soit distribué au niveau des foyers. Et on en a en quantité suffisante, donc pour ravitailler. Pour les autres, pour prévenir aussi, par exemple, pour maladie Guillain-Rimji, déjà nous avons pris des dispositions, des stocks tampons ont été, et maintenant les gens sont en alerte et la surveillance est renforcée.
Madame, pourquoi vous faites toujours de la sensibilisation, mais jusqu'à présent, les résultats restent à attendre? Ça n'a pas abouti. Pourquoi?
Vraiment, c'est le comportement de la population, surtout notre population. Vraiment, on sensibilise, mais jusqu'à présent, il y a la maladie qui sont là. Il y a les maladies à tout moment qui sont là. On les sensibilise, mais eux aussi, ils ne changent pas leur comportement. Surtout, le fait de verser les eaux usées en saison de pluie, c'est ça même qui est source de cette maladie. Les eaux usées, on va les verser dans la rue. Maintenant, on attend l'arrivée des pluies pour faire acheminer ça, source des maladies.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens ne sont pas conscients de l'importance de l'hygiène.
En tout cas, ça nous reste beaucoup à faire. Il y a ceux qui sont conscients, mais jusqu'à présent, il y a ceux qui ne sont pas conscients vraiment de cette hygiène-là.
Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour amener ces gens-là?
Nous, dès on se bat. On se bat pour les sensibiliser, pour qu'ils changent de comportement. Puisque tant que les règles d'hygiène ne sont pas respectées, donc nous allons toujours vivre avec les maladies.
Alors Zahir, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Alors, comment faire pour vraiment éradiquer cette maladie?
Je vais vous dire une chose, on est technicien d'hygiène de formation. Pour nous, c'est facile si vraiment on suit nos conseils. C'est facile. Puisque il n'y a pas plus facile à faire que quelque chose que tu maîtrises, que tu connais. On dit les maladies et transmissibles telles que le choléra et sont liées à un certain nombre de paramètres tels que le comportement et autres facteurs environnementaux. Et si aujourd'hui, la population accepte de respecter ces règles élémentaires-là. Parce que c'est des règles élémentaires. C'est parce que les gens ont d'autres, comment qualifier ça, ont des choses peut-être derrière la tête. Maintenant, chaque fois, ils lisent même ce qui va dans le sens de leur intérêt. Ils font l'amalgame. C'est comme s'ils vont faire ça pour quelqu'un, pas pour eux-mêmes. Donc, c'est là où vraiment il va falloir ménager beaucoup d'efforts pour pouvoir amener cette population-là à comprendre que ce qu'elle va poser comme acte-là, ça va dans le sens de son intérêt, ça va dans le sens de sa survie, de la protection de sa santé. Donc, à ce niveau, et on sait pertinemment que le changement de comportement, c'est pas quelque chose vraiment qui vient tout de suite, à l'immédiat. Donc, ça prend énormément de temps pour que, en tout cas, la majorité comprenne et l'importance ou la nécessité de poser tel ou tel autre acte et qui peut contribuer favorablement ou dans le sens contraire à l'émergence ou à la promotion de la santé de nos populations. Donc, beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire et nous invitons notre communauté ou nos communautés, nos populations à se ressaisir pour faire de la promotion de l'hygiène un succès, une réussite pour notre ville, pour la région, afin de nous épargner et d'épargner nos descendants et de les épargner des fatalités que causent ces différentes épidémies ou ces différentes urgences sanitaires auxquelles nous faisons face depuis
quelques années. Merci, Malin Zaibou. Nous allons finir avec vous, madame. Alors, quels sont votre dernier mot à l'endroit de la population pour vraiment amener cette population à comprendre qu'il est important aujourd'hui de tendre vers l'hygiène, l'assainissement, afin de faire barrage à cette maladie qui fait toujours des victimes?
Vraiment, nous lançons un appel à la population de respecter toujours les règles d'hygiène et assainissement, à ne pas évacuer les eaux usées dans la rue, à ne pas jeter les ordures dans les caniveaux. Comme on le dit, la santé n'a pas de prix. Donc, il faut prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, il faut respecter les règles d'hygiène afin d'éradiquer le choléra. Voilà ce que j'ai à dire.
En conclusion, retenez que le choléra s'est déjà déclaré en maladie en cette année 2022 avec 15 cas et que la question du respect de l'hygiène et de l'assainissement en maladie reste toujours problématique. Merci à vous, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence dans ce studio pour ce forum. Nous étions avec Zaibou Malam Lawali, responsable hygiène et assainissement communication à la Direction régionale de la santé publique, et Madame Yaya Hajia Mariama, qui est aussi responsable hygiène et assainissement de la ville. Merci et à bientôt.